Sans surprise, pour les habitués de ces lieux, je vous propose de continuer et donc de terminer ce matin la lecture du prophète Jonas qui ne veut pas venir. Ça y est, il arrive. Un petit prophète, un des 12 petits prophètes, nous en sommes au chapitre 4 qui est le dernier. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle le plan de ce livre, à coup sûr le plus connu des 12 petits prophètes, assez peu connu. Jonas 1, Jonas s'enfuit à l'opposé de la direction où Dieu lui avait demandé d'aller. Et on va bien comprendre aujourd'hui pourquoi. Il ne supporte pas ce que Dieu lui demande et il s'enfuit sur un bateau. Jonas 2. Il est avalé par un gros poisson au moment où il est jeté à la mer par des marins qui ne voulaient pas le faire, mais à qui Jonas explique qu'il n'y a pas d'autre solution puisqu'il est la cause de la tempête que Dieu a envoyée en relation avec la désobéissance de Jonas. Dieu permet que ce poisson avale Jonas et le rejette sur la plage pour que Jonas puisse reprendre son voyage là où il l'avait mal orienté. Jonas 3, Jonas va enfin à Ninive et va dire ce que Dieu lui a dit de dire à cette ville sous une forme qui semble être extrêmement courte, très peu préparée. Mais Dieu va permettre que toute la ville de Ninive, du roi au plus petit, soit étonnamment sensible, étonnamment à l'écoute de ce que Jonas dit, que tout ce peuple comprenne que Dieu est celui qu'il faut écouter et obéir, et que tout ce peuple se convertisse et décide de suivre Dieu. Ce qui nous rendrait, en général, fous de joie, et qui va rendre Jonas fou de colère. Jonas 4. Traduction récente, qui se veut être très simple à lire, parole de vie. Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met en colère, il fait cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays, c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis, je le savais bien. Tu es plein de tendresse, de pitié, patient, plein d'amour, tu regrettes tes menaces. Maintenant Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. » Le Seigneur répond à Jonas, « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère ?» Jonas sort de la ville et il s'arrête à l'est de Ninive. Là, il se construit un abri et s'assoit dessus à l'ombre. Il veut voir ce qui va se passer dans la ville. Alors le Seigneur Dieu fait pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il aura de l'ombre et sera guéri de sa mauvaise humeur. Jonas est rempli de joie à cause de la plante. Mais le jour suivant, un peu avant le lever du soleil, Dieu envoie un ver. Le ver pique la plante et la plante sèche. Puis, quand le soleil se lève, Dieu envoie de l'est un vent brûlant. Le soleil tape sur la tête de Jonas. Il va bientôt s'évanouir. Alors il souhaite la mort et dit « Je préfère la mort à la vie. » Dieu demande à Jonas « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère à cause de cette plante ?» Jonas répond « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. » Le Seigneur lui dit « Toi, tu as pitié de cette plante. Pourtant, elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. » En une nuit, elle a grandi, en une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive ? Fin du livre. Que Dieu bénisse notre méditation ce matin. Après la fuite, après sa prière au fond de l'eau, dans le ventre d'un poisson, son passage rapide de la ville de Ninive. Jonas va nous dire, en parlant à Dieu, le texte va nous révéler pourquoi il était tellement mal à l'aise avec la mission que Dieu lui confie. Et on va mieux comprendre le prophète. Mais bien sûr, comme tous les textes de la Bible, ils sont surtout là pour que nous comprenions mieux ce qui nous a été beaucoup rappelé au début de ce culte, que nous avons besoin de mieux comprendre Dieu. J'en ai des impressions sur Dieu. J'en ai des conceptions concernant Dieu. Certaines sont vraiment à corriger. D'autres sont déjà orientées du bon côté, éclairées en particulier par la Bible, par ce que Dieu peut utiliser pour m'aider à mieux comprendre qui il est. Et ce texte de Jonas est clairement là, principalement pour cela. Premier aspect de notre méditation, la grâce peut être vraiment difficile à accepter. Et tu peux mettre la diapo suivante. Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met en colère. Pas content, pas content, pas content. Ça rappelle un film à certains. Mais le texte hébreu, je redeviens très sérieux, est très très fort et les traductions le rendent bien. La version très simple que je lis avec vous ce matin le dit de façon un peu nouvelle pour moi. Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met en colère. Mot à mot, on pourrait traduire « pas content, il est vraiment pas content » et « très chaud, en colère, très chaud, il est très chaud ». Enfin bref, il y a deux fois deux mots pour nous dire que Jonas, il l'avale pas du tout. Et il préfère mourir, c'est très clair, qu'il est vraiment très fâché. Il préfère la mort à la vie. Il le dit au verset 4, ici, vous avez peut-être repéré, je vous le ferai remarquer tout à l'heure en bonus, qu'il le redit à la fin et qu'il y a clairement des répétitions, des symétries dans ce texte. Jonas préfère la mort à la vie. Voilà à quel point la grâce de Dieu est indigeste, inacceptable, insupportable pour Jonas. Je redis ce que j'ai déjà dit de Jonas, il ne faut absolument pas en rester à regarder Jonas de loin, de haut, perplexe. Comment un prophète, qui en plus se présente au chapitre 1 comme craignant Dieu, peut-il à ce point être à côté de ce qu'il devrait faire être ? Il ne nous faut pas en rester à la perplexité devant ce qu'est Jonas. Il nous faut reconnaître que Jonas nous rappelle ce que nous sommes. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous dire « Non, quand même pas. » Est-ce que vous pouvez penser à une personne? On a parlé d'un chanteur, artiste, un artiste, un footballeur, un homme politique, peut-être un collègue, hélas, un voisin, un patron, je ne sais pas. Quelqu'un qui vous fatigue beaucoup. En fait, beaucoup, beaucoup, comme Jonas. Ou à un type de personne, peut-être les personnes qui sont racistes, on peut être très raciste devant les racistes. On peut trouver insupportables les gens qui trouvent d'autres insupportables. Il nous faut penser à des personnes qui vraiment, nous, aujourd'hui, en juillet 2016, nous fatiguent, mais vraiment beaucoup. Et imaginez ce que nous pourrions ressentir si Dieu nous fait comprendre qu'il veut les bénir tout particulièrement. Ça a quelque chose d'indigeste. Ça a quelque chose, alors surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais probablement d'indigeste. La grâce qui tombe sur ceux qui, à nos yeux, la méritent moins que les autres, et c'est un contresens. Vous avez entendu ma phrase ? La grâce qui tombe sur ceux qui, à nos yeux, la méritent moins que les autres, peut être indigeste. La grâce est tellement grande, tellement merveilleuse, que quand elle est offerte aux autres, elle peut vraiment nous déranger. Mais pas seulement quand elle est offerte aux autres. Parce que la grâce est à 1000 lieues de ce qui correspond à beaucoup de conceptions qui nous collent à la peau concernant la justice et concernant les mérites, justement. Et nous sommes très dérangés avec la grâce, y compris quand elle vient sur nous, finalement. La grâce dérange. Elle est à 1000 lieues de notre conception de la justice, souvent, et de notre compréhension du fonctionnement et des mérites. Vous vous souvenez probablement d'une parabole que Jésus raconte et qui peut-être nous aide à certains moments plus que l'histoire de Jonas à comprendre en quoi la grâce est choquante, la parabole dite des ouvriers de la 11e heure. On n'accepte pas que le salaire ne soit pas proportionnel au travail. C'est quoi cette histoire ? Et Jésus nous fait comprendre, avec la même remarque dans la parabole qu'à la fin de Jonas, mais pourquoi ne voulons-nous pas que Dieu soit bon ? Dans la parabole, comme dans le récit de Jonas, il n'est pas question de nous prouver que Dieu serait très juste dans sa façon de récompenser les uns ou les autres. Bien sûr que non. Il est question de nous rappeler que Dieu est tellement bon que cela peut vraiment nous mettre mal à l'aise. La grâce peut être très difficile à accepter. Elle peut être difficile à accepter même quand on est croyant, même quand on prie, même quand on connaît sa Bible et qu'on la cite. Je ne sais pas si vous avez reconnu Jonas et chacun de nous. Qu'est-ce qu'il fait, Jonas ? Il prie, il parle à Dieu, au début, au milieu, à la fin. Et qu'est-ce qu'il fait en expliquant à Dieu pourquoi il avait prévu de ne pas aller à Ninive, et en expliquant à Dieu, et du coup nous on le sait, pourquoi il était vraiment mal à l'aise avec la mission qui lui était confiée. Qu'est-ce qu'il fait, Jonas ? Il cite Exode 34. Dieu est bon et compatissant, lent à la colère. Il fait grâce. Donc on peut avoir un problème très grave avec la grâce, même en connaissant Dieu, même en connaissant des textes bibliques, et même en priant. Et donc ce matin, il est hautement probable que chacun d'entre nous dans cette salle, certains qui sont peut-être assez nouveaux parmi nous, certains qui lisent la Bible depuis quelques jours, d'autres qui lisent la Bible depuis quelques décennies, et qui ne comptent plus combien de fois ils l'ont lu, il est certain, j'ai dit hautement probable, je progresse, il est certain que nous avons tous à mieux comprendre la grâce et qu'en fait cette grâce continue à être quelque chose qui ne nous est pas naturel. Autant c'est beau et merveilleux, autant nous avons encore beaucoup à la comprendre pour mieux comprendre qui est Dieu et mieux comprendre qui nous sommes et regarder l'autre différemment. Mieux comprendre qui est Dieu, mieux comprendre qui nous sommes, et regarder l'autre différemment. Et Jonas, au milieu de ce qui nous déçoit chez lui, nous laisse aussi des exemples de choses qui sont utiles. Qu'est-ce que fait Jonas au moment où il boude ? Il ne va pas trop loin, parce que, nous dit le texte, il veut voir ce qui se passe. Bravo. Il boude, mais il est quand même guetteur. Il boude, mais il garde les yeux ouverts. Il boude sans s'enfermer dans sa tente en disant « je ne veux plus voir personne ». Il est fortement contrarié, mais quand même, il veut voir ce qui se passe. Et il a très peur de voir ce qu'il ne veut pas voir. Mais il attend quand même de voir ce qui se passe. Et c'est là que nous arrivons à la plus grande leçon, probablement, de tout ce livre de Jonas. Dieu ne laisse pas tomber les mauvais élèves. Jamais. Dieu n'a pas regardé les Ninivites en dehors de sa grâce. Et Dieu n'a pas rayé Jonas de la carte en disant, pendant quelques années, il a plus ou moins rempli le poste que je lui avais confié, mais là, franchement, fini avec lui. Dieu va parler à Jonas. Dieu va faire pousser un arbre, un ricin, pour faire du bien à Jonas. Puis il va faire sécher cet arbre pour faire réfléchir Jonas. Puis il va faire souffler un vent chaud pour faire réfléchir Jonas, qui va presque tomber dans les pommes. Et qui va retrouver son attitude du début du chapitre et dire « trop, c'est trop ». Et qui va à nouveau préférer la vie à la mort. Dieu ne laisse pas tomber les mauvais élèves. Et Dieu veut faire comprendre à Jonas sa bonté, le fondement de la grâce. Ceux qui lisent la Bible depuis quelques années n'ont peut-être pas retrouvé des expressions qu'ils connaissent bien. Entre autres, à la fin, si tu veux passer la diapo suivante, Dieu parle de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Ah, c'est pas ce qu'on avait en mémoire. 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et parmi les questions qui ont fait beaucoup réfléchir les exégètes et les lecteurs de la Bible, on se demande qui Dieu peut évoquer par cette expression. Ceux qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, il y a des gens très bien, je n'en citerai pas, qui sont dans ce cas-là. Certains hochent de la tête et sont contents que j'ai dit que c'était des gens très bien. On a pensé à des enfants qui sont en apprentissage. On peut penser à des adultes qui ont perdu le nord, autre expression. C'est le choix de cette traduction que nous avons sous les yeux. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. La droite évoquant ce qui est bien, ce qui fonctionne, la gauche évoquant en général, dans le symbolisme biblique entre autres, ce qui ne va pas bien, je suis gauche. Quand je ne suis pas à l'aise, je suis adroit. Quand je suis à l'aise, rien à voir contre les gauchers, simplement des symboles. Mais en fait, que ce soit les enfants, que ce soit des adultes qui sont perdus, qui en manquent de repères, nous comprenons très bien ce que Dieu veut faire comprendre à Jonas, ce que Dieu veut laisser comme sujet de réflexion à Jonas. La grande question de Dieu, c'est « Alors, est-ce que je ne peux pas, moi aussi, être bon ?» Et c'est exactement la conclusion de la parabole que j'ai évoquée tout à l'heure. Jésus qui dit « Mais pourquoi voyez-vous d'un mauvais œil, de la part du maître, que je sois bon ?» Dit comme ça, ça paraît bête. Mais quand on lit toute l'histoire, on a effectivement du mal. Et Dieu veut amener Jonas à se poser cette question « Mais pourquoi ?» J'accepte si mal que Dieu soit bon. Et pour cela, Dieu a fait pousser un petit arbre. Dieu a fait sécher le petit arbre. Il a envoyé un verre. Il a envoyé un vent, il a envoyé du soleil. Il a permis que Jonas soit proche de la défaillance, etc. Pourquoi ? Parce que Dieu veut aider Jonas à progresser. C'est clair ? Mais oui, c'est clair. Dieu veut aider Jonas à progresser. Un homme ! Attends, mais il y a toute une ville qui vient de fonder une nouvelle église qui va se disperser en plusieurs pour qu'il y en ait une pour 10 000 et tout le reste. Un homme. Dieu aime Jonas. Et sa grâce pour Jonas est bouleversante. Quelques siècles plus tard, Dieu va dire à son serviteur Philippe, dans une période où il y a des milliers de personnes qui entendent l'évangile au début de l'église après la Pentecôte et qui se font baptiser. Un jour, le Seigneur va dire à Philippe dans Actes 8, « Va sur le chemin désert qui va de Jérusalem au retour jusque vers l'Éthiopie. » Et là, il y a un homme qui lit sa Bible et il a besoin d'aide. Et je vais permettre qu'au moment où tu arrives, ils sont en train de lire Ésaïe 53. Ça tombera très bien. Je paraphrase, c'est pas du tout dit comme ça. Pour un homme, Dieu va envoyer Philippe. Pour un prophète, Dieu va faire tout cela, tout ce que nous avons lu dans ce chapitre 4 et ce qui précède. pour que Jonas arrête de se fâcher à la mort. Et on peut trouver que l'histoire se termine de façon un peu abrupte. Avec une question certes ouverte, mais quand même. N'est-ce pas? Alors, est-ce que moi je ne peux pas être bon? Et on se demande ce que Jonas en a fait. Et on cherche toujours la suite. Aucun archéologue n'a trouvé la suite. Mais le texte nous suggère quelque chose de positif. Est-ce que vous avez remarqué des symétries qui sautent aux yeux? Jonas se fâche. Jonas veut mourir. Dieu fait pousser un arbre. Dieu fait mourir un arbre. Il y a des symétries, non? Je vais vous les proposer. Et Gilles va m'aider. Notre chapitre 4 commence avec Jonas qui affirme que Dieu est bon. C'est parce qu'il savait que Dieu est tellement bon et qu'il, en citant Exode 34, que Jonas dit « J'avais bien peur que ça se passe comme ça ». Qu'est-ce que Dieu dit à la fin? Pourquoi ne serais-je pas bon? Qu'est-ce que dit Jonas après avoir dit que Dieu est tellement bon qu'il ne le supporte pas? Je préfère la mort à la vie. Et Dieu lui dit, est-ce que tu fais bien de te fâcher? Et Jonas s'en va. Qu'est-ce qui se passe juste après la mort du ricin? Jonas redit, je préfère la mort à la vie. Et Dieu lui dit, fais-tu bien de te fâcher? Et là, Jonas dit, oui. Ben voyons, c'est insupportable. Et juste après, la première fois où Jonas dit, je préfère la mort à la vie, qu'est-ce que dit Jonas? Qu'est-ce que fait Dieu? Il fait pousser le ricin. Et qu'est-ce qu'il fait juste avant que Jonas redise « mieux mourir » ? Il fait mourir le ricin. Et qu'est-ce qu'il y a au centre du chiasme ? Un verset qui est très étonnant. Vous l'avez remarqué quand je lisais ? On se demande d'où il tombe ce verset. Jonas est rempli de joie à cause du ricin. C'est au centre. Je ne veux pas vous embêter avec trop de remarques sur la structure du texte. Mais franchement, c'est dans le texte. Et ce texte nous suggère que Dieu peut faire bouger les choses. Et que Dieu a réussi à rendre Jonas heureux quelques instants. Et à conduire Jonas à réfléchir de plus en plus. Et ce texte nous dit que Dieu, dans sa grâce, sait parler à tous. Le chapitre 3 nous a dit que Dieu pouvait parler à des Ninivites avec un prophète qui n'avait pas du tout envie qu'ils comprennent. Le chapitre 4 nous dit que Dieu peut parler à un prophète qui n'arrête pas de fuir ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Dieu est celui qui peut nous parler à nous. Conclusion. Relisons ce livre de Jonas du début à la fin et demandons à Dieu de nous aider à repérer, à continuer à méditer les leçons principales. Ce livre nous dit que Dieu est bon. Pour qui? Les Ninivites, ça saute aux yeux. Jonas, on n'a pas le droit de ne pas le voir. Et nous, ça serait vraiment dommage de ne pas en arriver là. Dieu est bon. Qu'est-ce qu'on en fait de sa bonté? Est-ce qu'elle nous fatigue quand elle tombe sur les autres? Est-ce qu'elle nous met mal à l'aise quand elle tombe sur nous? Est-ce qu'on n'arrive pas à croire que Dieu est vraiment bon avec nous? Puisque comme quelqu'un a prié tout à l'heure, on lui demande pardon et puis on retombe. Et puis on le redemande pardon et quelquefois on ne retombe pas, mais on retombe dans un autre truc. Est-ce qu'on croit à la grâce de Dieu? Qui nous aime? Qui ne nous lâchera jamais? Et qui nous tire vers le haut, qui ne passe pas l'éponge au sens léger du terme, et qui ne dit pas, quoi qu'il en soit, tout est prévu pour le pardon des péchés jusqu'à la fin du monde. Non, pas la grâce à bon marché qui serait légère, mais la grâce d'un Dieu qui dit, je suis toujours là, pour t'aider dans ta repentance, à te ressaisir, à revenir à moi, à arrêter de te fâcher, à arrêter de te rebeller contre ma grâce et à recevoir ce pardon qui veut te rendre heureux. Ça devrait nous rendre plus heureux qu'un ricin qui pousse juste au bon endroit. Et c'est un de mes plus grands souhaits pour nous aujourd'hui. Que la grâce de Dieu nous rende plus heureux que si, en sortant du culte, on s'asseyait là-dehors et qu'à côté de chacun de nous, un palmier pousse. Ça vous rendrait heureux, non? Ouais. Mais je vous souhaite d'être plus heureux que ça en pensant à la grâce de Dieu qui permet qu'Étienne soit sauvé. Je parle pour moi, chacun peut parler pour lui, pour elle. Et qu'après des décennies, là je parle pour moi, Dieu continue à pardonner et à tirer vers le haut. Comme il a tiré Jonas vers le haut, il veut nous tirer tous dans cette salle vers le haut. Et puis, dans la repentance, dans la joie, dans l'obéissance, poussé par cette bonté de Dieu, acceptons comme Jonas d'avoir notre regard sur les autres qui change. Et là, il y a du travail aussi, n'est-ce pas? Notre regard sur les autres doit changer. Et je dois apprendre à plus vouloir le bien de l'autre. Non pas être aveugle, faire la sourde oreille devant tout ce qui est tordu, décevant. Non, je peux en parler de ce qui me fait mal. Je peux dénoncer ce qui est dénonçable, mais avec grâce. En croyant que Dieu est celui qui peut sauver les Ninivites et sauver les prophètes, qui a beaucoup de patience envers ceux qui marchent avec lui depuis des décennies et avec ceux qui tâtonnent, qui commencent depuis quelques jours. Mon regard sur les autres doit changer. Et le grand besoin qui englobe tout cela, c'est que ma connaissance de Dieu doit grandir. Que le Seigneur nous parle par sa parole, par son esprit, pour que nous le connaissions de mieux en mieux et que nous soyons toujours plus heureux pour toutes les bénédictions, tous les ricins qu'il nous accorde.